Récemment, en recherchant une station de radio en modulation de fréquence, vous avez peut-être entendu cet indicatif bizarre.
Principe Actif, le mix des cultures.
C'est celui de
Principe Actif. Principe Actif.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Bon, vous voulez envoyer un peu de musique, cher ami ?
it's not the first time that a city's in your eye. Just an orgy trick, so all the real is done. And for once I don't care, just want to be a swear, cause I'm not your slave anymore. I don't see in your eyes, and why so many disguises. Get a smile off your face before I do. Tell me who the fuck this guy is.
Bonjour, 16h en temps universel, bonsoir, 18h ici à Paris.
Nicolas Brousse.
Les Émirats Arabes Unis ne connaissent pas l'origine des attaques, mais elles sont marquantes. L'une d'entre elles a provoqué ce week-end un incendie près de la centrale nucléaire de Baraka. C'est grave, mais pas d'accident nucléaire à redouter pour autant, nous dira une spécialiste. Au Pérou, un mois après le scrutin, on connaît enfin qui affrontera Keiko Fujimori. Au second tour de la présidentielle, c'est le candidat de la gauche rurale, Roberto Sanchez. Élection ouverte, les deux candidats divisent. Il a commencé vendeur de porte-clés avant de devenir l'un des hommes les plus puissants du Venezuela. Mais Alex Saab va rejoindre les prisons américaines où se trouve son allié Nicolas Maduro, ex-président exfiltré par les États-Unis. Et puis à Cannes, projection d'un des rares gros films américains de la sélection officielle, Paper Tiger de James Gray, réalisateur pour la quatrième fois en compétition. Une frappe de drone près de la centrale nucléaire de Baraka aux Émirats Arabes Unis a déclenché un incendie ce dimanche matin. Aucun blessé n'est à déplorer. Les niveaux de radiation sont stables d'après le bureau des médias du gouvernement local d'Abu Dhabi. Mais l'Agence internationale de l'énergie atomique exprime sa profonde préoccupation car c'est tout de même un générateur électrique qui a été touché. Il est situé à l'extérieur de l'enceinte de la centrale. Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires au Nam se veut rassurante, un accident nucléaire n'est pas à l'ordre du jour.
Il y aurait un drone qui aurait touché un générateur électrique à l'extérieur de la centrale et donc qui relie en fait la sortie de l'électricité de la centrale vers le réseau électrique des Émirats Arabes Unis. Donc c'est une pièce maîtresse dans le réseau électrique et c'est surtout la possibilité pour la centrale nucléaire de Baraka d'être alimentée en électricité par le réseau extérieur. Il n'y a pas le risque grave d'accident nucléaire tout de suite, hein, puisque les nouvelles centrales nucléaires comme Baraka sont construites sur ce qu'on appelle la défense en profondeur. Ça veut dire que vous avez plusieurs systèmes de protection de la centrale. Donc quand il y en a un qui est attaqué ou qui tombe en panne, il y a au moins trois barrières, donc il y en a au moins deux autres qui vont prendre le relais. Donc on est sur une situation critique, mais c'est quelque chose qui est grave si effectivement ça a été un bombardement intentionnel.
Des propos recueillis par Elliot Vessier et ce soir, les Émirats dénoncent une dangereuse escalade dans ce conflit au Moyen-Orient. Un conflit dont on ne voit pas la fin. Les États-Unis n'ont accordé aucune concession concrète dans leur réponse aux propositions iraniennes, notamment sur le dossier nucléaire de Téhéran. C'est le principal sujet de divergence entre Iran et États-Unis. Et c'est ce qu'assurent ce dimanche les médias iraniens. L'Organisation mondiale de la santé sonne l'alerte internationale face à la nouvelle épidémie d'Ebola qui frappe notamment la République démocratique du Congo. Un premier cas confirmé à Goma, dans le Nord Kivu, zone sous contrôle de l'Alliance, AFCM-23, mais pas à Kinshasa, comme on l'a cru un moment. Les tests se sont révélés négatifs. On fera le point en direct dans le prochain journal. On vote jusqu'à ce soir, 20h local, 21h TU, au Cap-Vert pour des élections législatives sur la dizaine d'îles qui composent l'archipel, mais aussi au sein de la diaspora. 416 000 électeurs inscrits au total pour choisir 72 députés. Ils ont un rôle très important car c'est l'Assemblée nationale qui désigne le Premier ministre, celui plus que le président qui met en œuvre la politique du pays. 5 partis en lice, mais 2 véritables rivaux, le MPD, le Mouvement pour la démocratie, qui va chercher à conserver sa majorité à l'Assemblée, et le PAICV, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert. Résultat partiel attendu dans la soirée, on en reparle dans Afrique Soir. Il aura fallu un mois pour enfin connaître les résultats du premier tour de l'élection présidentielle péruvienne. Après un dépouillement interminable et des milliers de bulletins réexaminés à la suite d'accusations infondées de fraude, ce sont finalement la candidate de la droite autoritaire Keiko Fujimori, fille d'un ancien président, et le candidat de gauche rurale Roberto Sanchez qui s'affronteront au second tour le mois prochain à Lima. Confirmation de Martin Chabal.
Keiko Fujimori, qualifiée en tête avec 17% des voix, aura attendu 35 jours pour connaître son adversaire. Ce sera Roberto Sanchez, 57 ans, candidat de la gauche et surprise de ce scrutin avec 12% des suffrages. Porté par un électorat rural du sud andin, il se revendique comme l'héritier de Pedro Castillo, destitué en 2022 et condamné à 11 ans de prison pour rébellion et qu'il promet de libérer s'il accède à la présidence. Il devance de moins de 20 000 voix l'ultra-conservateur Rafael López Aliaga, ancien maire de Lima, qui pendant un mois a dénoncé une fraude massive. En vain, les observateurs de l'Union européenne n'en ont trouvé aucune preuve. Mais Roberto Sanchez cristallise les peurs à Lima, la capitale, où beaucoup se sont reportés vers Keiko Fujimori, candidate de droite autoritaire. Mais l'héritage de son père, ancien président du Pérou condamné à 25 ans pour crimes contre l'humanité, lui a toujours empêché d'être présidente. Elle a déjà échoué 3 fois au second tour. Le 7 juin, elle tentera sa chance pour une 4e fois face à un candidat qui divise autant qu'elle. Dans un pays qui a connu 8 présidents en 10 ans, le second tour s'annonce aussi serré qu'explosif. Martin Chabal, Lima, RFI.
La Russie affirme avoir subi la nuit dernière l'une des attaques ukrainiennes les plus massives depuis le début du conflit. Environ 600 drones déployés, la Russie qui déplore 4 morts sur son territoire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qualifie d'entièrement justifié cette opération, alors qu'il avait promis de répondre aux bombardements russes qui ont fait une 20aine de tués à Kiev il y a 3 jours. À 18h06, heure de Paris, un nouveau signe de la coopération du régime vénézuélien avec Washington. L'homme d'affaires vénézuélo-colombien Alex Saab a été pris en charge par la DEA, l'agence états-unienne anti-drogue, après son expulsion hier vers les États-Unis. François-Damien Bourgeois, ce proche de l'ex-président Nicolas Maduro, avait été promu ministre en 2024, avant de tomber en disgrâce avec l'arrivée au pouvoir de l'actuel chef d'État par intérim, Delcy Rodriguez, qui fait donc un beau cadeau à Donald Trump.
L'histoire d'Alex Saab est celle d'un modeste vendeur de porte-clés colombien devenu entrepreneur à succès avant de s'imposer comme un intermédiaire clé du régime vénézuélien à l'international, d'abord via l'importation de matériel de construction, puis de denrées destinées au programme d'État de distribution alimentaire. Un programme éclaboussé par des accusations de corruption. Alex Saab est poursuivi par la justice états-unienne pour détournement d'aide alimentaire au profit de Nicolas Maduro et de son gouvernement. Nous sommes alors en 2019. L'homme d'affaires finit par être arrêté au Cap-Vert avant d'être extradé puis emprisonné aux États-Unis. À l'époque, le régime Maduro lance une énorme mobilisation pour obtenir sa libération. Création d'une fondation, graffiti, manifestation. Alex Saab est libéré au bout de 3 ans dans le cadre d'un échange de prisonniers. Il est accueilli en héros à Caracas et nommé ministre des Industries et de la Production Nationale. Mais l'enlèvement de Nicolas Maduro le 3 janvier et l'accession au pouvoir de Delcy Rodriguez entraînent sa chute. À la demande de Washington, Alex Saab est placé en détention. Il s'apprête aujourd'hui à rejoindre son ancien allié dans les prisons états-uniennes.
François-Damien Bourgeois, autre relation bilatérale qui se réchauffe alors que le ministre français de la Justice se rend demain à Alger. Son collègue de l'Intérieur annonce qu'il accueillera son homologue algérien à Paris dans les prochains jours. Laurent Nunez y voit un signal très positif. Une coopération sécuritaire se réinstaure progressivement. Le Rassemblement national réclame une diplomatie de la fermeté et non de la courbette, selon les mots de son porte-parole. Dimanche politique sur RFI à 18h12, temps universel. Et pendant ce temps, le Festival de Cannes bat son plein, avec hier soir le premier film américain de la compétition, Paper Tiger, du réalisateur James Gray, présent pour la 5e fois en compétition, mais qui n'est jamais reparti avec la palme. Cette 5e fois sera-t-elle la bonne? Le film était en tout cas très attendu sur La Croisette, où l'on rejoint Lisa Giroldini.
Oui, car malgré ses 5 sélections à Cannes, James Gray n'est encore jamais reparti avec la palme. Pour l'instant, le mystère reste entier, mais sa 6e tentative sera peut-être la bonne avec Paper Tiger, ajouté en dernière minute à la sélection officielle. Son drame policier retrace une envie de rêve américain qui vire au cauchemar. Dans les années 80 à New York, deux frères s'associent pour travailler sur un chantier en bordure d'un déversement d'eau polluée. De fil en aiguille, la police et le FBI vont devoir s'immiscer dans ce projet fraternel peu à peu pris en étau par la mafia russe. Et l'histoire s'envenime lorsque le danger commence à peser sur toute la famille. Un scénario incarné par un casting de luxe composé de Miles Teller, mais aussi de Scarlett Johansson et Adam Driver, déjà ensemble dans Marriage Story de Noah Baumbach. Ici à Cannes, si Scarlett Johansson a brillé par son absence sur le tapis rouge pour cause de tournage, l'habitué du festival Adam Driver était lui bien présent, prêt à défendre l'un des films les plus attendus de la compétition.
Elle fait partie de l'équipe d'RFI envoyée à Cannes, Lisa Giroldini. Le ciel s'assombrit tout de même à Cannes, où le patron de Canal+, premier financeur du cinéma français, annonce ce dimanche qu'il ne travaillera plus avec les signataires, dont des grands noms du 7e art, signataires d'une pétition diffusée contre l'actionnaire principal de Canal, le très à droite milliardaire Vincent Bolloré. On en reparlera dans nos prochaines éditions. En attendant, je vous laisse avec l'équipe de Mondial Sport et je vous retrouve pour un prochain journal dans 50 minutes sur la radio du monde.
Sur l'océan, on nage dans les néons qui engloutit les champs, le temps, les amants. La fumée qui sort de ta peau embrase les arbres et l'eau. De la palme, les rives jonchées d'or, le soleil en pagaille sur ton corps. Je te vois pour que tu ris encore. Au Brésil, une idylle. Jour avec toi sur une île plus paisible au Brésil, une idylle. Qu'un jour avec toi sur une île plus paisible au Brésil. D'une atmosphère humide et sans âge, la pluie arrive et nettoie tout sur son passage. Plus besoin de le dire, juste besoin de courir. Plus besoin de l'écrire, juste besoin de sentir.
Verneuil-d'Avray-Diton sur le DAB+.
Sur le DAB+.
Tonight another guy. Can we just remember when everything was fine, when we were young and reckless. Before it all began, just